RCF. Que cherchons-nous ? Cette question fondamentale, nous sommes nombreux à nous la poser, interrogation essentielle qui jaillit des profondeurs. Femmes et hommes en marche sur cette terre, nous avançons en quête d'un sens, pour nous-mêmes, pour nos proches et pour le monde. Qu'est-ce que je cherche au cœur de mon quotidien tissé de travail, de rencontres, de petites joies et parfois de grandes peines ? Qu'est-ce qui me fait aller, continuer et espérer malgré tout ? Dans l'évangile de ce dimanche, c'est Jésus lui-même qui nous adresse cette question cruciale. Pour le commenter, je reçois cette semaine Franck Dubois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes religieux dominicain, alors nous écoutons la parole pour commencer, chez Jean, chapitre 1, versets 35 à 42.
Jean-Baptiste se trouvait de nouveau avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure. Environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire « Christ ». André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre.
Franck Dubois, recitons tout d'abord avec vous ce passage. Nous sommes au début de l'évangile de Jean.
C'est cela, au début de l'évangile de Jean, qui commence par ce qu'on appelle le prologue, hein, les tout premiers versets, qui sont une grande fresque très... Si on emploie tout de suite des grands mots très métaphysiques, très qui prend beaucoup d'altitude sur pour nous présenter Jésus, qu'on appelle le Verbe dans ce prologue, on est tout là-haut dans le ciel, et puis tout d'un coup on descend et on descend avec Jean-Baptiste. Alors, on nous a un peu présenté Jean-Baptiste dans les versets immédiatement précédant notre passage, et on le retrouve maintenant, qui nous présente Jésus, non plus dans le ciel, comme on l'a vu dans le prologue, mais sur la terre des hommes. Et à partir de ce moment-là, dans l'évangile de Jean, on va suivre pas à pas Jésus dans son parcours sur la terre des hommes.
Il faut rappeler que Jean-Baptiste baptise dans le Jourdain. C'est un homme qui est suivi par des disciples. Donc, voilà. Il devait avoir une certaine aura. Le disciple, c'est celui, généralement, qui suit le maître.
Le disciple suit le maître. Et le paradoxe, c'est que là, parmi les gens qui viennent le voir, encore une fois, notre passage de l'évangile est très discret là-dessus, mais c'est le passage immédiatement précédent. Jésus est venu voir Jean-Baptiste pour se faire, vraisemblablement, baptiser par lui. Or, on sait bien que le propos de l'évangile, c'est de lui dire que le maître, c'est Jésus. Jésus va lui-même le dire. Alors que le maître soit baptisé par celui qui va devenir son disciple, qui va se mettre derrière lui. Voilà un paradoxe étonnant qui finalement ouvre l'évangile selon saint Jean. Et d'ailleurs, tous les évangiles où on nous parle de Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste, le maître, qui va devoir diminuer pour que la figure de Jésus prennent toute sa place. Il faut qu'il croisse et que je diminue, va dire Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, c'est important parce que c'est les disciples du Baptiste, hein, ces deux premiers disciples, qui vont suivre Jésus. Donc c'est vraiment le passage de relais. Passage de relais qui se voit très vite dans le récit, parce que si on y prête attention, Jean-Baptiste, il ne bouge pas. Il a les yeux fixés sur Jésus qui avance. Et Jean-Baptiste, lui, il est, on ne sait pas très bien s'il est assis, debout, peu importe, mais lui ne bouge pas parce qu'un relais, ça a besoin d'être fixe. Tout bouge autour de lui, Jésus, les deux premiers disciples qui vont suivre Jésus. Mais Jean-Baptiste est vraiment à la charnière. C'est vraiment un homme de la frontière du passage de relais. Et il est là au début de l'évangile pour nous dire, bon, maintenant vous m'avez suivi, maintenant attention, il y en a un autre qui vient, c'est Jésus.
Relisons avec vous, Franck Dubois, l'évangile que nous commentons verset après verset. Jean-Baptiste se trouvait le lendemain avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Le lendemain, Jean en fait a rendu témoignage à Jésus qui est plus grand que lui et visiblement ses disciples sont toujours avec lui.
Oui, c'est étonnant, mais ça se comprend un peu si on voit la construction du récit. En fait, c'est le troisième jour si on suit, et il va y avoir dans ce passage 7 jours en tout. Et donc là, on est au milieu. Le troisième jour, c'est souvent, on sait bien dans l'évangile, hein, le jour où il se passe quelque chose d'important. Donc le deuxième jour, c'était le jour de la contemplation. Voilà, Jésus est arrivé sur scène. Jean l'a déjà désigné une première fois comme l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Et là, dans notre passage, il le désigne à nouveau, mais ce qui change, c'est que, de fait, deux de ses disciples vont suivre Jésus.
Alors, il est question du regard. Jean-Baptiste pose son regard sur Jésus. Ce que fera Jésus plus tard sur un disciple.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous diriez de cette précision-là qui nous est donnée?
Jean-Baptiste est le veilleur, celui qui attend, celui qui, par excellence, attend le Messie, celui qui doit venir. Et donc un veilleur, c'est celui qui a le regard aiguisé, qui veille jusqu'à la tombée du jour. Et précisément, on va nous dire que, on va parler de la dixième heure, c'est la fin de l'après-midi. Donc celui qui veille, il a le regard aiguisé pour voir au-delà des apparences. Il voit sans doute un homme, Jésus, qui devait avoir l'air banal. Nulle part dans l'évangile, on nous dit qu'il était particulièrement grand, beau, fort, vigoureux. Non, un homme parmi les autres. Mais Jean-Baptiste est capable de son regard saillant de percer comme le mystère de cet homme Jésus qui est devant. Alors voilà pourquoi il repose son regard sur lui. Son regard tellement aiguisé par tant de veille, tellement aiguisé certainement parce que c'est un homme qui a beaucoup lu et mémorisé l'Écriture, qui connaît certainement bien puisqu'il les cite, les prophètes de l'ancien Israël. Ce regard qui toute une vie n'a aspiré qu'à une chose, à poser ses yeux sur Jésus, enfin. Enfin, ça arrive. Donc, on comprend qu'ils ne veulent pas non plus en perdre une miette, pour ainsi dire.
Alors, enfin, Jean-Baptiste, il va répéter ce qu'il a dit la veille à ses disciples. Voici l'agneau de Dieu. Que signifie ce terme, voici l'agneau de Dieu?
L'agneau, on peut dire, il y a deux grandes significations. La première, la plus immédiate pour tout le monde, l'agneau, qu'est-ce que c'est qu'un agneau? C'est une bête qui est douce, qui est pleine de tendresse et de patience sans doute aussi. Et on nous parle de l'agneau dans l'Ancien Testament, notamment au livre d'Isaïe et au livre de Jérémie, où on nous parle d'un agneau qui est conduit à l'abattoir et qui n'ouvre pas la bouche. Certainement qu'il a ça en tête, Jean-Baptiste, en voyant Jésus, que c'est un homme doux, qui ne va pas se plaindre et qui va faire son travail, qui va annoncer ce qu'il a annoncé, mais dans la douceur. Et bien sûr que ça nous envoie déjà à un épisode qui sera finalement à la fin de l'évangile, Jésus dans sa passion, qui quand il va être accusé par exemple par Pilate, de fait ne va pas ouvrir la bouche et va être conduit à l'abattoir, à la croix, sans protester. Ça c'est une signification de l'agneau. Une autre signification qu'on peut voir, c'est que cet agneau renvoie à l'agneau pascal, à l'agneau de Pâques, dont il est question cette fois-ci au livre de l'Exode et des Nombres, toujours dans l'Ancien Testament, l'agneau qu'on sacrifie. En fait, il y a deux types d'agneaux, si je puis me parler ainsi, qu'on sacrifie dans l'Ancien Testament. Là, il y a l'agneau pascal, la nuit de Pâques, quand les Israéliens vont être libérés de l'Égypte où ils étaient captifs, et puis traverser le désert et arriver en terre d'Israël. Au départ, ils sacrifient cet agneau, et on dit que le sang de cet agneau va être mis sur les portes de leur maison pour éviter que l'ange exterminateur qui va exterminer les petits des Égyptiens ne vienne exterminer leurs enfants. Il faut retenir simplement que le sang de cet agneau va préserver de la mort. Et cet agneau va être l'agneau pascal qui va préserver finalement Jésus, tous ses disciples de la mort. Alors, et puis il y avait un agneau qu'on sacrifiait aussi quotidiennement au temple pour la rémission des péchés dans l'ancien Israël. Donc voilà, l'agneau c'est celui qui est doux, c'est celui qui est notre pas, qui nous fait passer de la mort à la vie, et c'est celui qui va prendre sur lui le péché du monde.
Jean désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, il désigne, mais en même temps, il ne dit pas à ses disciples ce qu'ils doivent faire. Il reste dans un rôle de témoin.
Ce qui souligne sans doute la liberté du disciple. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le coup. On n'a pas affaire à une secte, on n'a pas affaire à une emprise quelconque, on a affaire à la liberté. Tout le monde est libre dans cette affaire. Jean-Baptiste est libre de rester là où il est, juste de dire une parole, et les disciples vont être libres de suivre Jésus sans que personne n'oblige personne. On est dans une grande liberté, dans un grand calme aussi, il n'y a pas d'effet d'esbrouf, tout ça est très paisible. Condition sans doute pour que un discernement, pour parler ainsi, se produise, condition opportune pour que on se décide librement de suivre ou non Jésus. Jean-Baptiste ne le suit pas, on ne sait pas pourquoi, peut-être parce que sa mission est accomplie, Il désirait le voir, il l'a vu. Sa mission est accomplie. Il désirait transmettre le relais à d'autres pour qu'ils le suivent. C'est ce qui va se passer. Et lui reste là.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
Franck Dubois, l'évangéliste Jean nous dit ensuite, les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Ces deux disciples changent de maître.
Oui, ils changent de maître. Alors c'est là où on voit que c'est encore une fois un passage de relais, cet évangile, parce qu'ils étaient disciples de Jean-Baptiste, ils vont devenir les disciples de Jésus. Ils changent de maître, ils changent d'allégeance. Et ce qui est beau, c'est que le maître Jean-Baptiste ne les retient pas, il les laisse aller. Sans doute que on peut prendre ça comme une caution de pas être retenu. Ils se disent bon bah ce qu'on fait c'est pas contredit par notre maître précédent, donc c'est sans doute bon. Ils changent de maître et c'est les deux premiers protagonistes. Après il y en aura d'autres, hein, ça va devenir les disciples, le groupe qui suit Jésus, les premiers avec lesquels finalement on va assez facilement, nous lecteurs ou auditeurs, s'identifier. En fait, on va les suivre à partir de maintenant.
Ce qui est significatif, c'est que ça n'est pas après un événement marquant, extraordinaire, qu'ils auraient suivi Jésus, mais c'est sur parole. On a l'impression que c'est la parole même de Jean qui est comme un poteau indicateur.
C'est peut-être aussi ce qu'il voit déjà de Jésus. Il se met dans le regard de Jean, sans doute, hein, comme d'ailleurs tout disciple se met dans le regard du maître. Et la jonction de la parole de Jean et de ce qu'il voit de Jésus qui passe là, les décide à partir. Comme vous dites, et c'est très paisible, et il n'y a rien de forcé, il n'y a pas d'effet d'esbrouf, il n'y a pas de séduction. C'est un geste, voilà, d'une grande liberté, d'une grande douceur. Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'on peut se dire, si ça fait longtemps que ces deux-là sont à l'école de Jean-Baptiste, c'est quand même un arrachement de passer d'un maître à l'autre. Et c'est quand même très subi. Et ça nous dit à la confiance qu'ils ont dans leur maître, Jean-Baptiste qui leur indique le chemin, la confiance en Jésus qui passe là. Et puis une attirance sans doute extraordinaire, on peut s'imaginer, si Jésus vient à passer devant moi demain, j'espère que j'aurai la même fougue pour le suivre très librement et très spontanément, et sans y réfléchir à deux fois.
Jean-Baptiste lui-même, il est libre par rapport justement à sa position de maître, il n'est pas jaloux, il ne retient pas ses disciples, il y a là aussi quelque chose de très fort.
Grande liberté de Jean-Baptiste, qui retient pas ses disciples, qui les laisse aller. Mais encore une fois, si on se dit que la mission de Jean-Baptiste, et c'est le cas parce que lui-même le dit précédemment, c'est d'annoncer ce royaume, d'aplanir le chemin pour celui qui vient, eh bien on peut se dire c'est cohérent pour lui de dire voilà, maintenant j'ai fait ma mission et d'autres vont suivre Jésus. Mais c'était pas ma mission de suivre Jésus. Moi, ma mission, c'est de préparer ces chemins. Donc vraiment, je m'arrête ici.
Franck Dubois, continuons à lire avec vous l'évangile de ce dimanche chez Jean, chapitre 1, versets 35 à 42. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et il leur dit « Que cherchez-vous ?» Regardons tout d'abord les indications physiques dans ce passage. Jésus se retourne, il les voit, il y a donc un engagement physique, charnel de sa part.
Oui, c'est d'autant plus notable que Jésus se retourne en fait qu'une fois dans l'évangile de Jean, ici. Ensuite, il continuera toujours à aller de l'avant. Par contre, ça nous fait immédiatement penser à un personnage qui se retourne à la fin de l'évangile de Jean, Marie-Madeleine, qui au tombeau, quand on l'appelle, se retourne et voit Jésus, qu'elle ne le reconnaît pas tout de suite, et elle l'appelle maître. Et ici aussi, ils vont l'appeler maître Jésus. Donc voilà, il y a un passage qui enrobe complètement l'évangile de Jean, ce retournement de Jésus au début vers ses disciples et ce retournement de sa dernière disciple qui est Marie-Madeleine vers Jésus à la fin de l'évangile. Voilà, sa première action de se retourner et de prendre soin aussi finalement de ses disciples. Il ne les laisse pas le suivre sans y faire attention. Il prête attention à ces deux personnes et il va leur poser donc une question engageante, mais qui les laisse à nouveau libres. Il va pas leur dire « suis-moi », il va leur poser une question. Voilà, il leur remet à nouveau à leur liberté. Ensuite, comme je le disais, il ne va plus jamais se retourner dans l'évangile parce qu'il va continuer son chemin, qui va le mener ultimement à Jérusalem, à la Passion et à la Résurrection.
Revenons justement avec vous sur cette question, cette fameuse question. Que cherchez-vous ? Jésus ne dit pas « qui cherchez-vous », mais « que cherchez-vous ? » Comment vous l'interprétez-vous ?
Eh bien, à nouveau, à la fin de l'évangile, précisément, Jésus va dire à Marie-Madeleine « qui cherches-tu ? » Donc, il y a encore une inclusion. Que cherchez-vous au début ? Qui cherches-tu à la fin ? Grande inclusion qui fait tout l'évangile. Et « que cherchez-vous ? » C'est des mots d'autant plus importants que c'est les premiers mots de Jésus dans l'évangile de Jean. Ça commence comme ça. La première fois qu'il parle, il dit ça. Et en fait, ces mots, on pourrait dire, vous y avez fait allusion dans l'introduction, résument toute la quête de l'Évangile. Qu'est-ce que tu cherches? Et puis, une quête existentielle de tous les hommes. Qu'est-ce que tu cherches? Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire à tout le monde. Quelqu'un qui est croyant ou pas croyant, il va pouvoir se reconnaître dans ces mots. Enfin, mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui te fait bouger dans la vie? C'est quoi ton moteur intérieur? Qu'est-ce qui te fait courir? C'est un peu cette question que peut poser peut-être Jésus à ses futurs disciples. Et ça les laisse encore une fois libres. Dire « qui cherchez-vous ?» ça serait peut-être déjà les induire dans une réponse. « Bah, toi, Seigneur. » « Que cherchez-vous ?» c'est beaucoup plus large. Et ça nous met aussi la puce à l'oreille sur le fait de dire que quand on suit Jésus, bien sûr, on suit une personne, lui, mais cette personne, elle va nous ouvrir sur des réalités qui sont bien plus grandes, sur le sens de nos vies, le sens de la vie, sur « que cherchez-vous ?» Que cherchez-vous, c'est plus grand que qui cherchez-vous. C'est plus large et ça nous ouvre des perspectives, je pense, bien plus grandes encore.
Alors, justement, à la question de Jésus, les disciples vont répondre, mais par une autre question. Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? On sait que le verbe demeurer, il apparaît environ 70 fois, je crois, chez Jean. Comment l'interpréter ici? Où demeures-tu?
Alors, ce verbe est très important. Alors le problème qu'en grec, c'est un verbe qui est quand même très courant. Donc, mais c'est vrai que Jean a l'air de l'employer. Il l'a employé déjà dans le prologue, dans ce qui précède, en disant que l'esprit demeure sur Jésus. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que demeurer, Dieu peut demeurer quelque part. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu peut demeurer quelque part. Et en fait, où demeures-tu? Ça nous renvoie à deux questions. Où est-ce que tu demeures physiquement? Où est ta maison? Où est ton logement? Et puis, où est-ce que tu demeures de façon plus fondamentalement? Jésus, il était auprès de Dieu. Et puis qu'il est venu planter sa tente ou demeurer auprès des hommes. Le verbe exact, c'est planter sa tente. Eh bien, en posant cette question « Où demeures-tu ?», c'est comme si les disciples demandaient à Jésus « Où est-ce que tu as planté ta tente ? Où es-tu parmi nous, parmi les hommes ? Où est-ce que tu habites ?» Mais aussi, fondamentalement, où es-tu ? Quel est ton lien avec Dieu ? Quelle est ta relation avec Dieu ?
Oui, donc il y a un aspect demeure, adresse, et puis il y a un niveau plus profond. Quel est ton ancrage profond ? Qu'est-ce qui te fait vivre ?
C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Et Jésus vient parmi les hommes, donc il est complètement avec nous, la demeure, planter sa tente, encore une fois, dans le prologue, où est-ce qu'il habite concrètement, enfin, où est-ce qu'il mange, il va être question de ça sans doute, où est-ce qu'il est géographiquement, physiquement, et l'évangile est plein de précisions géographiques, surtout l'évangile de Jean, et puis plus profondément, et on voit bien que ta vie se résume pas à où est-ce que tu habites parmi nous, on voit bien que tu viens de plus loin que ça, et que tu vas plus loin, donc où est-ce que tu as ton ancrage profond?
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Écoutons avec vous, Franck Dubois, la réponse de Jésus à la question des ex-disciples de Jean-Baptiste. Il leur dit, venez et vous verrez. Il y a quoi? Il y a à la fois un appel et une promesse? C'est ces deux choses en même temps dans cette réponse?
Oui, là pour le coup il s'avance un peu plus. Jésus, c'est plus qu'une question, cette fois-ci c'est plus une affirmation de fait, un appel, venez. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est l'ordre des mots est très important. Venez et vous verrez après. Ça nous parle de la foi. C'est-à-dire qu'il y a un pas dans l'inconnu, parce que ma foi, ils savent quand même pas grand-chose de cet homme qui vont suivre, très peu de choses même. Mais allez-y, avancez, et puis en me suivant, vous verrez. Mais c'est pas voir et avancer ensuite. C'est venir et voir après.
C'est un peu comme la réponse d'Abraham à l'appel de Dieu, va vers le pays que je te montrerai. Il s'agit de partir.
Voilà, c'est la foi. Venir d'abord et voir ensuite. Parce que ça, c'est la foi pour nous aussi. Il y a bien des fois où nous avançons dans le noir et on se dit, bon, il faut que j'accepte d'avancer dans le noir et de comprendre et de voir après. Surtout quand on fait un chemin avec le Seigneur.
Alors poursuivons, l'évangéliste Jean nous dit qu'ils allèrent donc, et ils virent où ils demeuraient, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. Ils allèrent, donc tout chemin spirituel, vous l'avez dit, suppose une mise en route, un départ, et ils demeurent auprès de lui.
Eh bien, ils font l'expérience, ça veut dire qu'ils prennent le temps d'être avec Jésus. On ne sait pas ce qu'ils font, et ça c'est merveilleux. L'évangile, comme toujours dans un récit, le plus important est caché, est suggéré. C'est bien plus fort de suggérer quelque chose que de dire avec moult détails ce qu'est cette chose, puisqu'on imagine bien que cette rencontre elle a dû être merveilleuse, bouleversante, Et donc, ça ne sert à rien de nous dire ce qu'ils ont vécu, parce que sans doute qu'on ne peut pas le transcrire en mots. Donc, ils prennent du temps, et puis ils demeurèrent, et bien ils font cette expérience, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, si Jésus demeure auprès du Père, fondamentalement, alors sans doute que s'ils ont demeuré avec Jésus, ils ont fait cette expérience de demeurer eux aussi auprès du Père, c'est-à-dire auprès de Dieu. Une expérience très spirituelle et en même temps très incarnée parce qu'elle suit un déplacement physique. Ils sont allés quelque part avec lui.
Pourquoi fait-on allusion à la dixième heure? Pourquoi cette mention de l'heure?
Alors, c'est une question que beaucoup se posent. Il n'y a, comme toujours, aucune réponse définitive. Alors, certains disent que c'est la dixième heure parce que Jean, celui qui écrit même, c'est le rédacteur de l'Évangile, se souvient comme si c'était hier de ce récit. Pourquoi? Parce qu'on va le voir tout de suite sans doute, mais sans doute qu'un des deux disciples, c'est précisément Jean. Donc on imagine que s'il écrit des années après ce qui se passe, il a le souvenir de quand c'était, hein, votre premier rendez-vous amoureux, ben vous vous souvenez, c'était à tel endroit, à telle heure. Voilà, dixième heure, qui correspond sans doute à 4 heures de l'après-midi. Alors on peut dire, autre interprétation, que 4 heures de l'après-midi, c'est l'heure où on prend son repas. Ou c'est l'heure où on sacrifiait le fameux agneau le soir. Et prendre son repas, alors ça aurait du sens de dire qu'il demeure avec eux à 4 heures, c'est-à-dire à l'heure où on prenait le repas, et sans doute, du coup, ils ont mangé peut-être avec lui. Et là encore, ça ferait une grande inclusion entre ce premier repas et puis la dernière scène, le dernier repas de ses disciples, de Jésus avec ses disciples.
Franck Dubois, l'évangile de ce dimanche se poursuit. André, le frère de Simon-Pierre, nous dit Jean, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire « Christ ». Voici un nom mis sur l'un des disciples de Jean. C'est donc André qui va témoigner.
Voilà.
Et là, on a une identité révélée.
Oui. Et l'autre, il y a des chances que ça soit Jean. Alors, pas Jean-Baptiste, attention, hein, mais l'évangéliste. Parce que dans tout l'évangile de Jean, il y a comme ça, le narrateur ne révèle jamais son identité, mais à quelques détails, on peut bien penser que c'est Jean qui est aussi appelé le disciple que Jésus aimait au fil des pages de l'Évangile.
Et c'est la première fois là que dans l'Évangile, Jésus est appelé Messie, hein, Christ.
Oui, alors Messie et Christ, il faut se souvenir que c'est exactement le même mot. Messie, c'est juste la façon hébraïque de le dire, c'est le mot hébreu, et Christ, c'est le mot en fait grec. Voilà, on l'a appelé agneau, maintenant on l'appelle Christ, le Messie, celui qui doit venir pour libérer Israël.
Écoutons la finale de notre évangile, Franck Dubois. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire « Pierre ». André amène son frère, donc il y a un passage de relais là. Hein.
Oui, il y a un passage de relais, il y a cette idée très belle. Je pense que si l'expérience a été si bouleversante là où ils ont été avec Jésus, ils ont envie de la partager. Et d'en amener d'autres. Et tout d'un coup, passage de relais, parce que c'est plus Jean-Baptiste qui amène, c'est déjà un disciple qui amène un autre disciple. Et puis vous avez repéré que cette fois-ci, c'est Jésus qui pose le regard, et non, c'est plus Jean-Baptiste qui pose le regard. Donc voilà, on voit bien que l'action bascule du côté de Jésus et des disciples. Maintenant, c'est eux qui vont être les grands acteurs de ce qui va se passer. Et la famille va continuer dans les pages qui suivent à s'agrandir, la famille des disciples.
Que signifie le changement de nom, Simon qui devient Képhas, Pierre?
Alors dans la Bible, il y a une longue tradition de noms qui changent comme ça. On peut penser à Jacob qui devient Israël et d'autres. C'est le changement d'une identité. Hein. Le nom, surtout dans l'ancien Israël, c'est vraiment plus qu'une appellation. C'est l'identité d'une personne. Donc ça veut déjà dire qu'à partir de maintenant, ton identité va changer. Par exemple, moi je suis religieux. Hein. On est un certain nombre à changer de notre nom quand on commence la vie religieuse parce qu'on veut signifier par là un changement d'identité. Et puis bien sûr, Pierre. Alors, là encore, pas besoin d'être un grand bibliste pour comprendre le symbolisme immense de son nom-là, qui peut vouloir dire le roc solide sur lequel Jésus va bâtir son église, mais c'est aussi la pierre qui fait tomber, parce que Dieu sait si Pierre tombe et chute dans l'évangile. Et la pierre peut-être de la tête un peu dure de Pierre aussi, qui de temps en temps est assez têtue. Et puis la pierre qui est aussi une façon dont Jésus lui-même va se désigner d'ailleurs, la pierre angulaire. Et donc Pierre n'est pas cette pierre angulaire parce que c'est Jésus qui est la pierre de taille, la pierre de fait, mais qui va être une des pierres de cette église, de cette communauté que Jésus commence à construire en étant parmi nous, en inaugurant son royaume sur la terre, cette communauté qui est l'église.
Donc on peut dire que Pierre reçoit une vocation là et il se la donne pas lui-même, il la reçoit dès le début de l'évangile.
Tout à fait, comme tout vrai nom, hein, on se nomme pas soi-même, on est appelé. Il est appelé Pierre et c'est un chemin qui se dessine. C'est un chemin parce que on s'imagine à sa place, hein, c'est quand même un nom mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien voilà, c'est toujours la même question. Que cherchez-vous ? Pierre va recevoir un nouveau nom et il peut se dire qu'est-ce que ça signifie ce nom ? Bah, pour le comprendre, viens et vois.
Franck Dubois, en quoi l'évangile que nous avons lu est une bonne nouvelle aujourd'hui, dans la période que nous vivons? Pourquoi ce texte nous rejoint actuellement encore?
Je pense une bonne nouvelle, déjà pour ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liberté dans ce texte. C'est un texte de vocation, des gens qui se mettent en marche à la suite de Jésus, il n'y a aucune contrainte. Suivre Jésus, ce n'est pas une affaire de pression, ce n'est pas une affaire de contrainte, c'est une affaire de rencontre, et Jésus lui-même nous veut libre, pas de pression. L'essentiel, c'est demeurer. L'essentiel, c'est de prendre le temps avec Jésus, comme ses deux premiers disciples. Et je pense que ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde pressé, pressurisé, où tout va vite. Et bien, quand on essaye de rentrer en lien avec Jésus, il faut admettre qu'il faut prendre du temps. Et tout est très engageant pour un chemin qui ne fait que débuter, mais qui commence bien.
Qui peut nous dire aujourd'hui où est Jésus, parce que le poteau indicateur, Jean-Baptiste, il n'est plus là? Qui joue ce rôle?
Eh bien, puisqu'il s'agissait de relais transmis, le relais, c'est les apôtres et c'est Pierre, hein, premier d'entre eux. Je crois, j'espère et je sais que l'Église aujourd'hui a ce rôle de montrer au monde Jésus. Alors, plutôt ciel que cette Église fût autant patiente que Jean-Baptiste dans sa veille, dans sa prière pour repérer où Jésus continue à passer dans le monde, que l'Église laisse autant libre ceux et celles à qui elle s'adresse pour qu'ils s'engagent dans ce chemin à la suite de Jésus, et que l'Église soit aussi accueillante, finalement, que Jean-Baptiste, qui, ça nous est dit un peu avant dans le récit, accueille tout le monde, hein, des gens de toutes sortes de conditions, des riches, des pauvres, des hommes, des femmes, des pécheurs et des moins pécheurs, que l'Église puisse accueillir tout ce monde-là comme Jésus, comme Jean-Baptiste accueillait tout ce monde-là, et puisse, comme Jean-Baptiste, montrer Jésus avec beaucoup de patience, beaucoup de liberté et beaucoup de miséricorde.
Il est question d'un regard, justement, peut-être ce regard que nous pourrions poser et qui est particulier aux chrétiens, poser sur tout être rencontré.
J'espère que ce regard peut être un regard le plus doux possible, le plus guérissant possible. Beaucoup de gens dans la société aujourd'hui sont à vif, pour des raisons qu'on comprend bien et qu'on partage. Hein. Beaucoup de gens sont à vif, sont blessés. Et déjà poser un regard sur eux qui est un regard de miséricorde et de douceur, ça peut contribuer, je crois, à ce qu'ils entrent dans un processus de guérison, à ce que ces blessures soient moins lourdes à porter. Et puis finalement, si on revient à la figure de l'agneau, qui est quand même centrale dans ce passage, l'agneau, nous le savons, Jésus, c'est un agneau qui va être immolé, qui va être blessé lui-même. Et bien c'est ces blessures à lui qui vont contribuer à guérir les blessures du monde. Nous, on n'a pas en rajouté du côté des blessures. Voilà, il a été blessé, il a été mis à mort, il a souffert sa passion une fois pour toutes. Mais nous avons à dire au monde, nous autres chrétiens, que par ces blessures, nous sommes guéris. Et on n'a pas à craindre à suivre un agneau qui ne nous fera pas de mal, hein, mais qui nous fera du bien. Alors, je pense que ça, on peut le dire par nos mots, mais aussi par notre regard, par la façon dont on s'adresse et dont on considère les gens autour de nous. Un regard doux, un regard de confiance, un regard qui appelle.
Merci à vous, frère Franck Dubois, d'avoir commenté cet évangile que nous avons lu. Il est à retrouver chez Jean, chapitre 1, versets 35 à 42. Merci à Antoine Picot à la réalisation technique.